Nous célébrons donc au cœur de cette session la fête de Saint Benoît, patron de l'Europe, hein, proclamée telle par le pape Paul VI en 1964. Et je vais, plus que commenter directement les textes que nous avons entendus, donc dire quelques mots sur Saint Benoît. Parce que je pense en effet que cette fête, donc au cœur de notre session, dans ces 40 ans de la communauté, elle n'est pas simplement une coïncidence de calendrier, mais que peut-être le Seigneur veut nous dire quelque chose à travers cela. À nous, la communauté des Béatitudes, mais aussi à vous tous, frères et sœurs, qui d'une manière ou d'une autre vous rattachez à notre esprit, à la grâce que le Seigneur nous a accordée et qui, bien entendu, est pour toute l'Église et pour vous tous. Permettez-moi donc de manière très très simple, sans aucune prétention, de vous partager fraternellement un petit peu quelque chose que j'ai sur le cœur et qui sera un petit peu la réponse à cette question, hein, qu'est-ce que Benoît pourrait nous dire à nous aujourd'hui, communauté des Béatitudes. Alors je pense qu'il pourrait nous dire beaucoup de choses parce que son message est très riche, mais il y a peut-être trois points sur lesquels je voudrais vous dire quelques mots. Le premier point, c'est la priorité de la prière dans notre vie. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Saint Benoît, donc, qui a été envoyé faire des études par sa famille à Rome et qui très vite a été un petit peu lassé d'une vie superficielle des étudiants de l'époque, semble-t-il, et donc qui a senti cet appel à quitter Rome, à tout laisser, hein, pour chercher le Seigneur dans la prière. Et donc il est parti dans les Apennins, dans la montagne italienne, à 70 kilomètres de Rome environ, à Subiaco, où il s'est enfermé dans une grotte, et il est resté là 3 ans, dans une vie de solitude et de prière, grâce aussi à l'aide d'un moine proche qui tous les jours lui apportait sa nourriture. Et c'est vraiment cela qui a été le point de départ de l'expérience spirituelle de Saint Benoît. Et comme ça arrive souvent, bien au bout de ces 3 années de solitude, des personnes touchées par ce qu'il vivait, ayant entendu parler de lui d'une manière ou d'une autre, ont voulu le rejoindre et lui ont demandé bien de créer autour de lui des communautés qui puissent prolonger cette expérience de recherche de Dieu dans la prière. Et c'est ainsi qu'est né cet immense mouvement monastique de la famille bénédictine, qui a eu donc une extrême déploiement dans toute l'Europe, dans le haut Moyen-Âge et par la suite, et dont on connaît l'importance donc pour la construction de la civilisation européenne. Donc Benoît a été proclamé patron de l'Europe par le pape Paul VI, et donc on comprend très bien les raisons quand on est un petit peu témoin de l'histoire du monachisme bénédictin, c'est que ce très nombreux déploiements de monastères, de communautés monastiques dans toute l'Europe, se rattachant à la règle de Saint Benoît, eh bien, on joue un rôle très important pour permettre peu à peu à la société de sortir de cet état un peu chaotique, extrêmement instable, un monde tout à fait fragmenté, et peu à peu va se reconstituer donc une nouvelle société, une nouvelle culture, bon, qui aura bien sûr ses limites, mais aussi sa valeur et sa beauté, donc toute cette culture du Moyen-Âge, qui fait encore partie des racines fondamentales de la civilisation européenne. Alors, en même temps, avec ce titre de patron de l'Europe donné à Saint Benoît, c'est clair que nous nous trouvons devant un paradoxe, parce que le monachisme bénédictin a eu un rôle social, religieux extrêmement important, mais ça ne faisait pas du tout partie des projets de Benoît. Il n'avait absolument pas l'intention d'être un réformateur social, il n'avait aucune ambition humaine, il n'a cherché aucun rôle politique, il n'a pas voulu être un réformateur de quoi que ce soit, il a simplement suivi cet appel de Dieu à s'enfoncer, à plonger dans la prière et une connaissance très intime, très profonde du mystère du Christ qui lui a été donné par ce temps de prière et de solitude. Et c'est sur cette base donc que s'est déployé eh bien, tout le mouvement dont il a été l'initiateur. Et donc, vous voyez, il y a ce paradoxe de quelqu'un qui a eu un rôle visible, social, politique, religieux, culturel, extrêmement important, tout ce qui se renouvelait dans le domaine de la liturgie, de l'agriculture.